Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On ne fabrique pas un robot pensant aussi facilement que ça.
Tu t'acharnes à créer un robot adulte. Pourquoi pas un robot enfant?
Un robot enfant.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Je l'ai créé de mes propres mains, en mémoire de mon fils Thomas. Ce petit robot ne vous appartient pas. C'est à moi seul de m'en occuper.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Et pourtant, que d'aventure pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot.
Astro, le petit robot, Astro Boy, découvert en 1986 par les téléspectateurs français. Bonsoir Grégoire Hello.
Bonsoir.
Bienvenue chez
nous. Bienvenue, merci. Heureux de vous accueillir dans le studio de la curiosité sur RTL. Ça y est, on n'est plus en FaceTime, en Skype. Voilà, on se voit pour de bon. Ça
et
fait
nos
du,
invités ça fait du sont bien. En chair et en os.
Et nos invités aussi. Vous êtes directeur de collection aux éditions Kurokawa. Astro Boy, ce n'est pas n'importe quel personnage dans l'histoire des mangas. Pourquoi?
Non, parce que ça a été l'un des premiers mangas à être publié au Japon, mais surtout, ça a été le premier à devenir un dessin animé, ce qui lui a donné un rayonnement absolument exceptionnel. Et très vite, il est devenu un héros national connu de tous les petits-enfants.
Ouais, premier héros de manga à devenir dessin animé dans les années 60, je crois, au Japon. Et on attend, qu'est-ce que je disais, 1986 en France. Mais les mangas, quand est-ce qu'ils débarquent d'une manière générale sur nos écrans à nous, Français ?
Alors, on peut retenir plusieurs dates, mais la date la plus importante, c'est 1978, quand Goldorak et Candy arrivent.
Candy,
voilà. Toute ma jeunesse.
J'étais plus Candy, évidemment.
78, j'avais 12 ans, je regardais ça, évidemment.
L'été 78, les deux premiers gros dessins animés japonais identifiés comme tels arrivent, et ça devient un succès phénoménal. Hein. On se rappelle que Goldorak faisait plus de 90% d'audimat. Bon, il y avait que trois chaînes à l'époque, mais c'était quand même exceptionnel. Et surtout, c'était le côté révolutionnaire de ce que ça racontait, que ce soit Goldorak ou Candy, qui ont ensuite ouvert la voie très vite à Albator, Ulysse 31, et puis après dans les années 80, les Chevaliers du Zodiac.
Pourquoi c'était révolutionnaire quand c'est arrivé, Goldorak, Candy, ça faisait opposition, ou ça apportait quoi de plus que les dessins animés qu'on avait à la télévision française?
Alors ça apportait en fait une narration et une approche de l'histoire qui était complètement différente de ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on avait, c'était soit des dessins animés de production européenne, soit des dessins animés de production américaine, qui étaient très policés, très enfantins.
Il n'y a pas de violence?
Non, et c'est vrai que du coup, en Asie, on a une sens de la narration qui est très différente. C'est-à-dire que on peut montrer des choses violentes, mais du moment que le méchant qui a fait des sales trucs est puni à la fin à la hauteur de ce qu'il a fait, les enfants savent que c'est pas bien et donc c'est pas grave. Donc la notion de ce qu'on peut raconter ou pas aux enfants est assez différente, d'autant plus qu'il n'y a pas eu toute l'influence narrative de Walt Disney aux États-Unis. Donc les contes de Grimm, les vrais contes de Grimm, ils sont assez hardcore quand même.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Et donc c'est l'émission au Club Dorothée qui a beaucoup fait pour populariser les mangas sous forme de dessins animés d'ailleurs en France. Si on compare là à l'univers de la bande dessinée, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport... Alors il y a d'énormes succès de bande dessinée en France déjà à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils ont de différents, les héros de manga?
Alors, il existe un manga pour chaque âge, pour chaque sexe, oui. Presque pour chaque tranche sociale, mais les mangas qui vont exploser en France et qui vont continuer à exploser encore aujourd'hui, c'est la portion majeure du manga, c'est vraiment les œuvres pour les préadolescents et les adolescents. Parce que dans les années 80, pour les dessins animés japonais, puis les mangas papier arrivent en France, il y a un gros manque de culturel et de divertissement pour les adolescents.
Oui, parce que la BD, c'est de 7 à 77 ans. C'est voilà. La formule qu'on utilisait.
On utilise ça, voilà. Et quand vous êtes un adolescent...
d'ailleurs.
Bah oui, c'est ça, pour les enfants de 7 à 77 ans. Ouais. Donc c'est charmant comme formulation. Mais quand vous êtes ado, vous n'avez ni envie de lire la même chose que votre petit frère, ni que votre papa.
Et oui.
Voilà. Et donc, les mangas arrivent et proposent des héros qui sont souvent différents, qui se sentent rejetés.
Dessin différent aussi. Oui. Un graphisme qui change.
Oui,
c'est que ça,
mais
ça ressemble à quoi?
Au-delà du graphisme, c'est vraiment la narration qui est importante et qui fait que les adolescents se retrouvent dans ces héros qui sont mal à l'aise face au sexe opposé, que ce soit dans les mangas pour garçons ou dans les mangas pour filles. Il y a des vrais émois amoureux qui ne sont pas tellement racontés, en fait.
Ce sont des histoires réalistes qui nous correspondent. Grégoire Hello, vous avez traduit Jump, l'âge d'or du manga, écrit par Hiroki Goto, livre publié aux éditions Kurokawa. Que veut dire le mot manga?
Alors, manga, si on prend les deux caractères japonais, ça signifie image dérisoire. Mais tout comme aujourd'hui, bande dessinée, on ne pense plus à une bande qui est dessinée, mais à un objet qui représente un livre. Manga, aujourd'hui, représente l'objet du manga.
Ça date de quand? Les premiers mangas, avant que ça s'appelle manga, vous voyez ce que je veux dire? C'est une tradition picturale qui remonte très très loin dans l'histoire
du
Japon.
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui discutent de l'origine des mangas, mais le côté véritablement admis généralement du manga, c'est ce qu'on appelle les chojugiga. Ce sont des rouleaux, des parchemins qu'on déroule et qui racontent des histoires d'animaux anthropomorphes au XIIe siècle. Et
donc ils ressemblent à des humains, c'est ça ?
Voilà, donc on a des grenouilles et des lapins qui sont sur leurs deux pattes arrière et qui ont des instruments. Donc on les voit bêcher, biner, pêcher. Et c'est on estime que c'est le démarrage du manga parce qu'en déroulant le rouleau, en déroulant le parchemin, l'histoire continue.
Je vous remercie du fond du cœur, monsieur Larson. Vous avez risqué votre vie pour sauver tous mes souvenirs.
Non.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voici Jean-Paul Césari qui nous chante le générique de Nicky Larson.
RTL.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce célèbre manga, Nicky Larson ?
Une ombre file dans la nuit.
Il y avait ce manga dont on était tous fans quand on était enfant. C'est assez ambitieux parce que c'est l'adaptation d'un manga japonais, culte. Donc sur le papier, c'était pas à gagner.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans la chaleur de la nuit, le mal est...
Nicky Larson, sorti au cinéma l'an dernier. Grégoirello, vous êtes le directeur.
François Touchard de connaître les paroles de la chanson par cœur.
C'est une mission pour lui, en fait.
Les coups de rire, non, je ne la connais pas par cœur en fait.
Oh là,
je vais faire semblant.
Oui.
C'est vrai que la justice le passionne, hein, Nicky Larson à travers ça. Mais bon, je ne connais pas, je connais pas.
Grégoirello, vous êtes le directeur de collection, aux éditions Kurokawa. Comment s'appelle d'ailleurs le personnage dans la BD originale de Nicky Larson ?
Nicky Larson, en japonais, c'est Ryo Saeba. Mais il a été francisé, évidemment, pour faciliter l'adhésion du public français.
C'est quoi la vie des auteurs de manga, en fait ? Thomas disait avant la pause là, que c'était un chemin très compliqué, à pavé d'enfer quasiment, parce que c'est compliqué de dessiner. Qu'est-ce qui est compliqué ? D'alimenter rapidement le public, de répondre aux désirs
Ils ont des rythmes de parution qui sont énormes. Par exemple, pour le manga, on citait Nicky Larson, ouais. Par exemple, Nicky Larson s'était publié dans un hebdomadaire. Et le dessinateur devait donc dessiner entre 18 et 24 pages par semaine. Ouais. Ce qui est énorme.
C'est beaucoup,
un demi-album de BD franco-belge par semaine. Donc c'est énorme. Fouille. Donc ces gens-là travaillent avec des assistants, mais ils sont épuisés. C'est un rythme qui est épuisant. Et pour devenir mangaka, oui, il faut évidemment du talent, savoir convaincre les éditeurs, mais il faut être un marathonien, parce qu'une fois que c'est lancé, on ne peut plus s'arrêter.
Et donc on appelle ça les mangaka, vous venez d'employer le terme. Qui a le pouvoir ? Sont les éditeurs qui ont le pouvoir sur cet univers ? Parce qu'en France, je le disais tout à l'heure, ça pèse 19-20 millions d'albums chaque année, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est quel pourcentage du marché de la BD ?
C'est environ un peu plus de 30% de la BD aujourd'hui.
Bon, en France, mais alors au Japon, c'est énorme. Qui a le pouvoir là-bas ?
Alors, ce qui fait la spécificité des mangas par rapport aux comics américains ou aux BD franco-belges, c'est que l'auteur va régulièrement discuter avec son éditeur, c'est-à-dire que chaque auteur de manga va avoir un responsable éditorial qui lui est attribué, et chaque semaine ou chaque mois, s'il travaille dans un mensuel par exemple, il va discuter avec son éditeur pour voir un petit peu dans quelle direction il va aller. C'est-à-dire que chaque chapitre est scruté par l'édito. La spécificité du manga aussi, c'est que dans chaque magazine, il y a des enquêtes. C'est-à-dire que les lecteurs, on va leur demander qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez pas aimé ce mois-ci. Et à partir de là, l'éditeur va affiner dans le but que la série dont il est en charge ait plus de succès. Il va dire à l'auteur, bon, écoute, elle, les gens l'aiment pas, tu la tues, ou ce chapitre-là, il était un peu triste, donc là, tu vas nous faire un truc où ils vont acheter un gâteau et puis ils se cassent la figure dedans, ou voilà. Ils vont leur donner des conseils comme ça.
Pour les gens qui nous écoutent et qui découvrent le manga, même s'il y a beaucoup de gens qui en lisent, tout le monde n'en lit pas, moi, l'image que j'en ai, sans avoir préparé une interview, si j'avais pas préparé une interview, c'est des garçons qui se tapent dessus, ou des mangas érotiques. C'est un peu l'image qu'on peut en avoir. Ça parle de quoi, les mangas, en général, ceux qu'on a en France et ceux qu'on peut lire dans le pays d'origine, le Japon ?
Alors, le manga, c'est quelque chose qui est extrêmement sectorisé, hein, parce que ce sont les mangas tels qu'on les connaît en France, ce sont des albums reliés, mais à la base, ils sont d'abord publiés dans des magazines, et chaque magazine a sa cible. Donc, il y a des mangas pour les petits garçons, pour les petites filles, pour les garçons en primaire, les filles en primaire, voilà, vous montez ensuite jusqu'au lycée, et après, à l'université, vous avez pour les garçons adultes, les jeunes adultes, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, vous en avez fait pour les femmes au foyer, les femmes qui travaillent, etc., etc. Donc, il y a
tous
les
genres. Thématiques, en fait.
Il y a tous les genres, toutes les thématiques. Vous connaissez les mangas de bagarre et les mangas érotiques parce que forcément, c'est ce qui n'existait pas.
Voilà. Bien sûr.
Et c'est ce qui n'existait pas en France. Donc, c'est tout de suite ce qui a marqué le plus.
Ouais.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un papier en disant « Regardez, les Japonais lisent des mangas sur la gestion des hôtels. » Ça n'intéresse personne. Par contre, vous regardez le manga où des femmes font des trucs cochons avec des pieuvres, où il y a des bonhommes qui cassent des montagnes avec leurs mains. Là, tout de suite, c'est plus choquant visuellement.
Bien sûr.
Et donc, il y a ce travail-là avec les éditeurs pour s'adapter au goût du public. Et puis, c'est surtout un travail par équipe, vous l'avez dit, mais rapidement. Ça veut dire que le mangaka, l'auteur de manga, il a quoi ? Il a des petites mains ?
Il a des assistants, oui, tout à fait. Autant en France, l'auteur de BD, on n'a que son nom à lui et ses assistants, on ne les connaît pas ou quand il y en a. Autant au Japon, il faut des assistants, parce qu'on parlait de Nicky Larson tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire 24 pages détaillées comme ça, avec à chaque fois des personnages, avec des buildings, des voitures, des machins. Donc en général, le dessinateur va faire un crayonné, ensuite il va l'ancrer, mais tout ce qui est les détails, par exemple les buildings que vous avez au fond, ou les explosions, ou ces trucs-là, il va avoir des assistants, entre 2 et 10 assistants, selon la complexité du manga, et ces assistants vont remplir au noir. Par exemple, les personnages ont les cheveux noirs, remplir à l'encre, ça prend énormément de temps, donc ça c'est un assistant qui va le faire. Pareil, dessiner un immeuble, que ce soit vous ou n'importe qui d'autre, ça ne change rien à l'histoire, donc ce sera quelqu'un d'autre qui fera toutes les maisons, tous les arbres, etc.
RTL.
Écoutez-moi tous! Ce mur est le fruit de la sagesse de Dieu!
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous seriez en état de vous battre s'il arrivait quelque chose?
Et comment ça? Qu'est-ce que tu veux qui arrive?
À votre avis, vous n'avez pas peur que l'ennemi casse le mur un jour et pénètre dans la ville?
T'inquiète pas, gamin. Si ces saletés arrivaient à casser le mur, on saura les accueillir.
La curiosité est un vilain défaut.
De l'attaque des titans, dessin animé issu de l'univers des mangas, avec nous Grégoire Hello, qui est directeur de collection aux éditions Kurokawa. Vous nous racontez comment ces bandes dessinées japonaises sont les héritières d'un art qui est né au 8e siècle, un genre qui représente aujourd'hui près de 40% du marché de la BD en France. 19 millions d'albums vendus l'an dernier. Et ce magazine Shonen Jump, d'ailleurs il y a ce livre qui paraît, Jump, l'âge d'or du manga, dans votre maison d'édition. Shonen Jump, qui publie en 68 une BD particulière qui va faire scandale. Pourquoi ?
Tout à fait. Alors le Shonen Jump, c'est aujourd'hui le plus gros magazine de manga au monde. C'est chez lui qu'il y a eu Dragon Ball, chez du Zodiac, le Surveillant, etc. D'accord. Mais quand il se lance en 68, il n'existe pas. Il y a déjà d'autres magazines qui existent et il faut qu'il se fasse une place. Donc, il va lancer plusieurs mangas différents. Et le premier, celui qui va vraiment faire parler de lui et qui va faire scandale, c'est un manga qui s'appelle Harenshi Gakuen, qu'on traduit en français par L'école impudique, qui est disponible en français d'ailleurs. Ouais. Et ce manga, donc, ça va être un gros choc culturel et sociétal, puisque c'est un manga qui est dessiné par Gō Nagai, le créateur aussi de Goldorak.
Et ça raconte quoi ?
Et ça raconte l'histoire d'une école dans laquelle les profs sont des obsédés sexuels qui passent leur temps à embêter les jeunes filles et à punir les garçons. Et donc, les élèves vont organiser la résistance contre les profs. Donc, c'est complètement idiot, hein. C'est-à-dire qu'ils vont planquer des pierres dans le plafond, ça va assommer les profs, il va y avoir du sang partout. Y a un prof qui se balade en peau de bête, mais comme il a des hémorroïdes, il laisse des traces de sang quand il se déplace, donc ils vont le pister comme ça et tout. Ah oui, non, c'est complètement.
C'est pour dénoncer une réalité japonaise ou
alors, bah, c'était
c'est
en fait
une pure fiction.
Ah, c'est de la fiction, hein. Je pense pas qu'il y ait des professeurs japonais en peau de bête.
Non, mais des profs pervers, avec une école hyper sévère, ça peut, c'est possible aussi au Japon, ouais. Parce que l'éducation.
Malheureusement, il y en a partout. Mais rappelez-vous la date, c'est 1968, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de 68 en France, mais au Japon aussi, il y a un vent de contestation, il y a notamment des vagues communistes qui essayent de s'installer dans les universités, qui ont été beaucoup réprimées d'ailleurs par l'Amérique, qui était très présente à l'époque.
Donc ça rencontre un écho politique,
cette
BD.
Oui, tout à fait. Et ce manga-là choque énormément, puisque on propose à des enfants des mangas dans lesquels les professeurs sont des salauds, et on manque vraiment de respect à l'institution de l'école. Et ce manga va d'ailleurs devenir le symbole d'une lutte en 68, la lutte contre la construction de l'aéroport de Narita, où il y a cette espèce de Notre-Dame-des-Landes à eux, qui ont avec des répressions très très violentes. Et à l'époque, les manifestants ont les héros des mangas sur des pancartes, sur des t-shirts, et ça passe dans toutes les télés.
Grégoire Hello, je crois qu'on a oublié de donner une info quand même de base à ceux qui n'ont jamais ouvert un manga, c'est que ça se lit à l'envers.
Ah bah oui, puisque les Japonais...
Enfin, à l'envers pour nous.
Oui,
oui, pardon, c'est tout à fait ethnocentré ce que je viens de dire, à l'envers pour nous.
Les Japonais écrivent de droite à gauche, donc, et à la verticale. Donc forcément, les mangas se lisent, entre guillemets, à l'envers.
Et quand on les lit en France, ces mangas, ils se lisent également à l'envers.
Tout à fait.
Ils ne sont pas remis à l'endroit pour nous.
Non, ils ont été remis à l'endroit la première fois que les mangas sont sortis en France, il y a une trentaine d'années, parce qu'on avait peur que ça choque le public. Mais dès les années 90, les premiers mangas, dans le bon sens... apparaissent, et on se rend compte qu'en fait c'est vachement mieux, parce que si vous dessinez, vous vous rendez compte que quand on fait un dessin, si on veut voir les défauts de son dessin, on le met à l'envers. Et forcément, on se rend compte, et puis il y avait plein d'erreurs, c'est-à-dire qu'on ne retouchait pas les traductions. Donc, par exemple, un personnage se fait couper le bras gauche, et dans la VF, ils disent « Ah, j'ai plus de bras droit !» alors qu'il n'avait plus de bras gauche.
Donc
ça posait tout un tas de soucis, et puis les dessinateurs japonais n'étaient pas contents de voir leur dessin mis à l'envers. Donc maintenant, on les met à l'endroit. Et puis,
et on s'adapte,
surtout,
voilà.
Oui, et puis les jeunes gens... alors, au début, les parents avaient peur, mon fils va devenir fou s'il est à l'envers. En fait, les enfants ont une fluidité de lecture qui est absolument fascinante, et personne n'est dérangé par ça aujourd'hui.
Alors, je ne suis pas obsédé par les hémorroïdes, hein. J'adore avoir prononcé cette phrase sur RTL quand même, mais j'ai découvert en préparant l'émission qu'il y avait des mangas qui donnent des conseils de santé publique, et je n'invente rien.
Attention.
Le titre français, en tout cas, c'est Anus Beauté.
Tout à fait.
Oui.
Alors, on l'a publié il y a quelques années. On l'a publié avec la. Ça a été préfacé d'ailleurs par Marina Carrère d'Encausse, qui nous a fait cet honneur.
C'est dire ce que c'est sérieux.
Voilà, oui, oui, non.
On l'embrasse.
C'est un des rares mangas de conseils médicaux ou de conseils de santé qui sont sortis en France. En fait, c'est une comédie romantique dans laquelle le héros n'arrive pas à se déclarer, parce qu'à chaque fois qu'il veut déclarer sa flamme, oui, à l'élu de son cœur, forcément son cœur s'emballe, et voilà, les hémorroïdes étant une maladie vasculaire, aïe ouille, il a mal et il est obligé d'aller se planquer. Donc du coup il va être repris en main par une nana qui a deviné qu'il y a des hémorroïdes en disant oui, j'ai vu à ta démarche que tu avais des hémorroïdes, on va refaire, donc elle va chez lui, il a des chiottes à la turque, donc elle casse tout, elle dit non, il faut pas s'accroupir, ton régime alimentaire, non, pas du tout, alors il bosse au McDo, il dit mais non, tu peux pas rester debout pendant des heures, voilà. Et donc
il y a des vrais conseils de santé publique.
Exactement. Donc c'est une comédie romantique, vraiment. Ouais. Hein.
Ça se finit bien.
Mais il y a des vrais conseils et on explique, il faut faire ci, il faut pas faire ça, avec des petits schémas sur le voilà pourquoi est-ce qu'on a des hémorroïdes, parce qu'avant on était notre système vasculaire est adapté pour des gens qui vivent à quatre pattes et qu'on est toujours debout, bah le sang stagne, etc., etc. Donc c'est médicalement juste et en plus on apprend en s'amusant. Et des mangas comme ça au Japon il y en a énormément. Il y a des mangas sur quelqu'un qui s'est fait opérer d'un cancer des testicules par exemple il y en a énormément. Il y a un manga sur une personne qui a changé de sexe, qui a expliqué comment ça s'est passé. Et donc, le manga, vraiment, c'est un médium qui permet d'apprendre en s'amusant.
Et ben voilà, c'était passionnant. Ils vécurent heureux et mangèrent moins épicé. C'était la conclusion de ce manga Anus Beauté. Non, ça, c'est pas vrai, c'est moi qui le rajoute. Vous avez traduit, Grégoirello. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Jump, l'âge d'or du manga, c'est écrit par Hiroki Goto et c'est publié aux éditions Kurokawa.
Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.